grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Chenibiro.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce débat du jour, le débat qui porte sur les pourparlers d'Alger vus par les élus du Nord. Les pourparlers d'Alger sont amorcés après 3 mois de retard. Nous avons tous les protagonistes sur place, les groupes politico-militaires, les représentants de la société civile et les responsables de l'État sont présents. Les débats de fond devraient être engagés au niveau des 4 sous-commissions. La première traitant les questions politiques et institutionnelles, la deuxième les questions sécuritaires et de défense, la troisième la justice et la réconciliation et enfin les questions de développement économique et social. Pour en parler, nous avons invité dans ce studio le député Mohamed Ould Sidi Mohamed du RPM, élu à Gundam. Monsieur Mohamed Ould Sidi Mohamed, bonsoir.
Bonsoir.
Monsieur Alkadi Mamoudou Touré de l'URD, député de Djiré. Monsieur Touré, bonsoir.
Bonsoir.
Mamoudou Diabaté de la Fédération des organisations de la société civile. Monsieur Mamoudou Diabaté, bonsoir.
Bonsoir.
Et Monsieur Ak Inan, député élu à Kidal. Monsieur Ak Inan, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, la toute première question par rapport pour parler d'Alger aujourd'hui, quelles sont vos attentes par rapport à ces pourparlers? Est-ce que jusqu'ici, ces pourparlers conviennent? Qui veut prendre la parole?
Bien, moi je pense que les pourparlers d'Alger qui ont débuté, il paraît, depuis hier, ils ont eu 2 jours de retard en raison de l'arrivée de certains membres de la société civile et des groupes armés. C'est une bonne chose à laquelle tous les Maliens s'attendent depuis 2 mois après l'investiture du président de la République. Et je suppose que à l'époque, à mon humble avis, les gens étaient un peu pressés. Le président ne pouvait pas, après 2 mois seulement de son investiture, entamer c'est pour parler, parce qu'il fallait d'abord mettre de l'ordre dans le pays qui sortait d'une longue crise. Et il fallait aussi avoir des gens avec lesquels dialoguer, parce qu'à l'époque, les groupes eux-mêmes, ils s'effritaient. De 3 groupes, maintenant, on est à 6. Donc, il fallait attendre que tout cela voie le jour, à mon avis, pour qu'on puisse enclencher les pourparlers. Nos amis, beaucoup de Maliens disent on a traîné, on a fait ça. Mais moi, je pense que c'est à juste raison. Le président de la République a traîné, c'est pour avoir suffisamment de temps. Je vous remercie.
Alors, M. Touré de l'URD, qu'est-ce que vous en pensez après ces 3 jours de retard? Les choses sont bien parties. C'est ça comme vos attentes jusqu'ici? Quelles sont vos attentes par rapport à ces pourparlers?
Merci beaucoup. Et pour commencer, je dis bonsoir à tous les intervenants sur cette tribune. Merci au studio Tamani pour nous avoir offert cette occasion quand même de nous adresser à beaucoup d'auditeurs. Et je ne suis pas d'avis avec mon grand frère, parce que l'État est une continuité. L'État est une continuité. Il y a eu les accords de Ouagadougou, ça a servi à beaucoup de choses. Surtout que ça a préservé l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est l'intégrité du territoire. L'essentiel, c'est quoi? C'est la forme républicaine. L'essentiel, c'est quoi? C'est tous ces acquis qui ont été consacrés dans l'accord de Ouagadougou. Et l'État étant une continuité, des gens se sont engagés, vous êtes venus après, vous ne pouvez pas nous dire que vous n'êtes pas prêts. Il faudrait engager les pourparlers et dire que pour telle ou telle raison, nous ne sommes pas prêts. Donc moi, je ne suis pas d'avis avec lui. Parce que le fait de ne pas appliquer l'accord de Ouagadougou après les 2 mois, ça a servi à quoi? Ça a servi absolument à rien. Des événements de 21 qui sont venus nous faire perdre le tout. On avait beaucoup de positions. Toutes ces positions sont perdues. Parce que l'accord n'a pas été respecté les 2 mois après. Et ensuite, parce que l'État, je ne sais pas à quel jeu il joue, parce que vous n'avez pas engagé les pourparlers. Et ensuite, vous partez déclarer la guerre à ces gens, alors qu'ils étaient dans des positions qui n'étaient pas confortables. Mais aujourd'hui, nous avons tout perdu.
Monsieur Mohamed Ould Sidi, du RPM, c'est votre avis aussi?
Moi, je crois que la question que vous avez posée, c'est qu'est-ce que nous attendons de pourparler aujourd'hui d'Alger. Et je suis vraiment un peu au regret que ça amène un débat entre opposition et majorité. Nous, aujourd'hui, ce que nous attendons de ces pourparlers, nous pensons que ces pourparlers, en tout cas, beaucoup de responsables, qu'ils soient des mouvements, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient des responsables de l'État malien, du gouvernement malien, sont aujourd'hui sur le terrain. Et si cette fois-ci, ce problème n'arrive pas à trouver la solution, je ne sais pas quand est-ce qu'il aura sa solution. Donc ce que nous attendons, c'est que, avec l'aide des partenaires, l'aide de la communauté internationale, et avec notre engagement tous unis comme un, tous unis pour le Mali, il faut que nous attendons à ce que ces négociations aboutissent à la paix. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont souffert, beaucoup de gens sont en train de souffrir, beaucoup de chefs de famille sont hors du territoire, sous des vieilles tentes, en train de tendre la main pour avoir à manger et à boire. Beaucoup de familles aujourd'hui sont déplacées à l'intérieur de ce pays depuis 3 ans. Depuis 3 ans, ils sont déplacés à l'intérieur de ce pays. Ils ne savent même pas comment joindre les deux bouts. Beaucoup de chefs de famille aujourd'hui ne peuvent pas aller dans leur famille.
Pourquoi ?
Beaucoup parce qu'ils ont des problèmes qui les ont chassés. Ils ne peuvent pas aller parce qu'ils ont d'autres craintes d'insécurité.
D'accord. Monsieur Mamoudou Diabaté, la Fédération de la Société Civile, c'est au-delà de ces cris de cœur, est-ce qu'au niveau de la société civile aujourd'hui malienne, les attentes, c'est ce qui se passe en Algérie, c'est à votre convenance, ça vous convient ? Ou bien quelles sont vos attentes ?
Merci beaucoup. Et c'est le forum des organisations de la société civile. Tous les Maliens ont aujourd'hui les yeux braqués sur Alger. Parce que aujourd'hui, les gens, ils sont fatigués. Ils sont fatigués de tout ce qui se passe au nord. Ils sont fatigués de tout ce que nous connaissons comme entrave au développement socio-économique du pays. Aujourd'hui, ils sont à Alger, c'est juste pour pouvoir élaborer un plan de règlement. Le plan de règlement, c'est pour parler non seulement des questions institutionnelles, mais également c'est de parler des questions de défense, mais également des questions de développement socio-économique, des questions de désarmement, de démobilisation, mais aussi de réinsertion des combattants. Donc, la vision aujourd'hui est le souhait de la société civile pour que le processus d'Alger puisse aboutir, n'est-ce pas, à une paix définitive. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à cette paix et pouvoir enclencher vraiment d'autres chantiers qui portent sur des projets de développement, mais aussi des projets structurants, des projets socio-économiques. Donc, c'est ça l'attente des organisations de la société civile.
Voilà. Alors, selon vous, deuxième question, les groupes qui sont alliés, est-ce qu'ils sont tous représentatifs, sont tous légitimes? Vous avez une minute pour répondre. Mohamed Ould Sidi.
Bon, moi, je pense qu'actuellement, les groupes qui sont alliés, c'est tous des groupes. Il y en a qui sont armés et qui ont fait le combat. Il y en a aussi qui sont toujours du côté du gouvernement. C'est des pro-États. Et aussi, il y en a aussi qui sont dans la dissidence. Donc, si les 6 groupes vraiment répondent, à mon avis, s'ils se mettent d'accord et ils signent avec le Mali quoi, quelque chose, ça pourra voir le jour.
Monsieur Ignace, député Ilia Kidal, c'est votre avis aussi?
Bon, je pense qu'aujourd'hui, la société civile à la majorité est représentée à Alger. Ça, c'est un. Les groupes aussi, dans leur majorité, sont représentés à Alger. Donc, je pense en tout cas que tous ceux qui sont à Alger aujourd'hui, s'ils arrivent à amener un cadre de paix, hein, avec l'appui du reste des populations maliennes, nous irons à la paix.
Monsieur Mamoud Touré de l'URD.
Al-Kaïdi Mamoud.
Oui, Al-Kaïdi Mamoud.
Permettez-moi de répondre un peu à mon collègue. Moi, j'ai fait une rétrospective de l'accord de Ouagadougou pour préciser que nous sommes partis à Alger en position de faiblesse. Je dis bien le gouvernement du Mali, en position de faiblesse.
Monsieur Diabaté, de la société civile, c'est nous sommes partis en position de faiblesse.
Nous sommes effectivement partis à Alger en position de faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les régions du Nord, l'État est complètement absent. L'État est présent seulement dans les capitales régionales et certains chefs-lieux de cercle. Et quand on descend à l'intérieur, il n'y a aucun emblème de l'État qui existe. C'est pratiquement les drapeaux du MLA qui flottent un peu partout. Donc si tel est le cas, l'État est parti en position de faiblesse. À Kidal aujourd'hui, l'État est absent. Quand on prend certaines parties de Gao, de Tombouctou, l'État est complètement absent. Donc on est parti en position de faiblesse. Maintenant, quand on dit que la société civile est représentée, et moi je dirais non. Parce que quand on regarde, on a dit les communautés en fait peuvent faire partie de la société civile, mais ce n'est pas une société civile organisée, ce n'est pas une société civile institutionnelle. À ce niveau, normalement, si on devrait faire représenter la société civile, les voix sont connues, les plateformes sont là, il y a le forum, il y a le conseil national, on passe par ces plateformes, on leur demande de fournir des noms pour se faire représenter au dialogue.
Donc
et
vous
pour
voulez
parler.
Dire
que... Mais en fait, moi je dirais que la société civile n'est pas à Alger. La société civile qui est en Alger, c'est une société civile parrainée par l'État, parrainée par les groupes armés et parrainée par les groupes d'autodéfense. La société civile est complètement absente à Alger aujourd'hui.
Monsieur Al-Kadi Touré, du RD, c'est votre sentiment?
Mais c'est mon sentiment. Dans tous les cas, ils amènent toujours les gens qui leur plaisent, qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. C'est ça le problème. Sinon, on ne peut pas me dire qu'on peut aller à Alger et lâcher Château, à Charide. Qu'est-ce que ceux-ci n'ont pas fait dans le problème de la crise du Nord? On ne peut pas aller sans ces gens. Donc si on prend au choix, on choisit les gens parce que vous voulez qu'ils aillent dire ce que vous voulez qu'ils disent. Mais je dis que ça veut dire que les gens comprennent que nous sommes dans notre pays. Le pays-là n'appartient pas à une majorité ou à une opposition. Le pays, c'est le tout. C'est à nous tous. Et j'ai dit que moi, je ne parle pas de groupe parce que je ne sais pas qui représente qui ne représente pas qui. Il y en a tellement de groupes. Tous les jours, il se crée des groupes. Mais il y a un fait quand même que je veux relater ici. C'est que les Touaregs peuvent réclamer Kidal. Mais comment les Touaregs peuvent réclamer Gao et Tombouctou?
Non, on a dit le groupe d'autodéfense et le groupe politico-militaire.
Mais je suis en train de...
Il y a Ganakoy aussi à Alger.
Oui, mais il y a Ganakoy. Mais chaque fois, on ne veut pas qu'ils participent. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on vient nous mettre dans un problème...
Non, le Ganakoy est bien présent à Alger.
Oui, il est présent, je vous l'ai dit. Mais je vous dis, le gouvernement, quand vous regardez les gens qu'il choisit, c'est des gens qui font son affaire. Parce qu'apparemment, ils ne veulent pas que les gens disent leur opinion. Alors que c'est le Mali. Nous, on ne cherche absolument rien là-dedans. Mais il faudrait absolument que les gens donnent leur opinion de leur pays. Parce que c'est de leur vie qu'il s'agit. C'est de leur pays qu'il s'agit. Il ne s'agit pas du pays de qui que ce soit. Et qu'aucun groupe ne va venir nous dire, c'est-à-dire nous faire appliquer ce qu'ils veulent que ça s'applique au Mali. Pour quelles raisons?
Monsieur Aguina, ce député Elia Kidal, c'est votre sentiment? Ceux qui sont à Kidal, ils ne sont pas assez représentatifs?
Ceux qui sont à Kidal?
Non, à Alger, disons.
Bon, moi, en tout cas, suivant le tableau que j'ai vu, je pense que ceux qui sont à Kidal aujourd'hui,
à Alger
aujourd'hui, peuvent vraiment faire un travail qui, si... Vraiment, les gens veulent la paix. Ce travail-là pourra aider à aller à la paix. Parce que la société civile, moi j'ai vu des gens de la société civile qui sont là-bas. La société civile, chacun a sa société civile. Si on va de famille en famille, chacun peut dire que ma société civile, dans mon quartier, dans mon village, dans ma région, c'est un tel, un tel. Est-ce que vous voyez? Donc, les gens qui sont à Alger, ils peuvent vraiment faire de sorte qu'il y ait un document qui doit être aidé par ceux qui sont là. Parce que ce n'est pas toute la société civile qui va partir. Moi, on ne m'a pas invité à partir à Alger. Et pourtant, je n'ai pas besoin de le dire ici. D'autres vont le dire sans moi. Mais je trouve qu'on ne peut pas tous aller. Ce n'est pas tous ceux qui se sont impliqués qui peuvent aller. Parce que beaucoup de gens se sont impliqués, beaucoup de gens ont travaillé, mais ce n'est pas tout le monde qui va aller. Même ceux qui sont partis là. Moi, je suis un peu au courant de la situation. On a fait de sorte qu'on a diminué. C'est pas ce que le Mali voulait au début. Les gens que le Mali voulait inviter. Mais on a dit que ce n'est pas possible.
Monsieur Mohamed Oulsidi, Mohamed, tout le monde ne peut pas partir?
Moi, je pense qu'on a pris un échantillon de responsables de la société civile qui sont en train de faire, qui sont partis négocier au nom de toute la société civile. Parce que l'État a pris les gens les plus proches du dossier, qui les connaissent, et qui ont même certains, même parmi ceux qui sont là-bas, ont leurs frères. qu'ils ont leur fer même parmi les combattants, on pense qu'ils peuvent quand même les influencer un peu sur leur position, leur présence. C'est un peu ça. Sinon, au début, l'État, plus moi je suppose que plus la délégation est réduite, plus on négocie mieux. Plus on est assez nombreux, ça fait beaucoup d'idées et beaucoup de gens et beaucoup de dépenses inutiles. C'est vraiment mon avis.
D'accord, on va observer la pause. Le prochain chapitre, c'est sur le statut des régions du Nord.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le Grand Dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Oui, je rappelle aux auditeurs que le débat porte ce soir sur les pourparlers d'Alger vus par les élus du Nord. Pour en débattre, nous sommes avec M. Mohamed Oud Sidi Mohamed du RPM, élu à Gounam, Al-Kadi Mamoudou Touré de l'URD, député de Diré, Mamoudou Diabaté, la Fédération des organisations de la société civile, du Forum de la société civile, et M. Aguinas, député élu à Kidal. Alors, faut-il un statut particulier aujourd'hui pour les régions du Nord? Monsieur Diabaté, du Forum de la société civile, qu'en pensez-vous?
Bon, en fait, permettez-moi de revenir un peu en arrière. Parce que moi, je peux comprendre qu'on parle de la société civile. Moi, en tant que président du Forum des organisations de la société civile, on n'a jamais été contacté. Il ne s'agit pas que tout le monde parte à Alger. C'est ce que Ibeka a dit et j'étais très surpris même de cette déclaration de Ibeka que tous les Maliens ne peuvent pas être à Alger. En amenant la société civile, ça ne veut pas dire que tous les Maliens sont à Alger. Ibeka, il est issu de la société civile, mais aujourd'hui, il a complètement oublié. Ce que moi, je vais dire, il faut aller à Alger avec des gens qui sont représentés. Ceux qui sont à Alger ne sont pas représentés forcément à tout le monde. Il faut aller aussi, parce que ceux qui sont là-bas, ils représentent la communauté. Et cette communauté n'est pas forcément une société civile organisée. Il faut aller à Alger avec des gens qui connaissent le dossier. Il faut aller avec des gens qui peuvent contribuer. Ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas forcément le cas. Si peut-être, je ne veux pas parler du cas de la société civile parrainée par les groupes armés ou parrainée par les groupes d'autodéfense. Mais je parle de la société civile qui sont partis au compte de l'État malien, qui est une société civile parrainée. Des gens qui ont été choisis, on ne sait pas n'importe comment, qui ne connaissent pratiquement pas le dossier et qui sont là, qui parlent au nom de la société civile. En fait, on n'est pas parti, mais on a produit un document qu'on a envoyé à Alger. Maintenant, pour ce qui concerne les statuts particuliers des régions du Nord, la position de la société civile est très claire. Il n'y a pas de statut particulier pour les régions du Nord. S'il y a un statut particulier pour les régions du Nord, n'est-ce pas, cet avantage doit être étendu sur toute l'étendue du territoire national. À Alger, si jamais ils arrivent à faire ressortir un État imaginaire avec un statut particulier pour les régions du Nord, ça veut dire que jusqu'à la crise n'est pas finie. Parce que tout ce qu'ils vont faire comme proposition, ça veut dire que c'est des propositions qui sont vouées à l'échec. Il faut que les choses soient très claires. Parce que nous sommes là, nous sommes en train d'assister, mais on n'est pas d'accord qu'on puisse donner des statuts particuliers à des régions du Nord en oubliant les autres régions du Sud. Donc tous les pays doivent bénéficier, n'est-ce pas, des avantages et de la décentralisation et de la régionalisation.
À l'heure actuelle, là où nous sommes aujourd'hui, c'est en temps présent du Mali. Est-ce qu'il faut-il aller aujourd'hui à une régionalisation, bien l'autonomie des régions?
Non, on peut renforcer la décentralisation. On peut aller à la régionalisation, mais qui doit s'étendre sur toute l'étendue du territoire. Mais pas forcément seulement les régions du Nord. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, tous les problèmes que nous avons, c'est un problème de gouvernance. La décentralisation, nous avons amorcé, les textes sont là, mais jusque-là, il n'y a pas eu la délégation. Il n'y a pas eu une délégation. Les finances, aujourd'hui, quand on prend certains secteurs, c'est seulement au niveau de l'éducation où on peut dire qu'il y a eu le transfert des ressources. Mais prenons le reste des volets. La santé, c'est pas fait, le transfert n'est pas fait. Et l'environnement, le transfert n'est pas fait. L'hydraulique, le transfert n'est pas fait. C'est seulement au niveau de l'éducation que le transfert des ressources a été fait. Mais le transfert, n'est-ce pas, il faut étendre ce transfert pratiquement à tous les domaines. Maintenant, il faut renforcer la décentralisation. Il faut aller à la régionalisation s'il le faut, mais une régionalisation qui ne concerne pas seulement les régions du Nord, mais l'ensemble des régions du Mali.
Et l'élu de Kidal, qu'est-ce que vous en pensez? Régionalisation ou autonomie des régions du Mali?
Bon, moi, je crois que, en tout cas, au niveau du Mali, tous ceux qui travaillent sur ces dossiers sont pour la régionalisation. Mais c'est une régionalisation avec un transfert de tous les moyens de développement, qu'ils soient humains ou financiers. Et ça, je pense que dans ça, il y a tout. Dans ça, il y a tout ce qu'il faut pour le développement des populations. Maintenant, statut particulier, pas statut particulier, je ne sais pas. En tout cas, il faut qu'il y ait la paix. Et déjà, ça je viens de le dire, déjà, là, il y a une loi qui consacre les statuts particuliers des régions du Nord. Qu'est-ce qu'on va faire de ça?
Avec laquelle?
Mais le pacte de 92, il consacre un statut particulier. Seulement, ça n'a pas été appliqué. Donc le problème, c'est que nos textes même nous punissent des fois.
Monsieur Mohamed Ould Sidi,
moi je pense que...
Statut particulier, régionalisation, autonomie.
Au niveau du RPM, nous estimons que c'est une régionalisation poussée.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il faudrait... que, puisque à partir du moment où il y a les quatre lignes rouges, que tous les groupes armés reconnaissent l'intégrité du territoire, la laïcité, l'unicité de la République. Bon, tout le reste, c'est vraiment, il faut régionaliser toutes les régions, y compris celles du Sud, je suis d'accord avec M. Diabaté, et leur donner, parce qu'il faut propulser le développement en responsabilisant les populations à la base. Maintenant, il y a des choses qui vont rester vraiment communes à tout le monde, le drapeau, l'hymne, la monnaie, et puis tout cela peut, mais je pense qu'il faut vraiment responsabiliser. Autant les gens de Kidal veulent leur autonomie, leur développement local géré par eux, autant moi je pense que le Sénoufo de Sikasso aussi le souhaite. Vraiment c'est notre point de vue, ces régionales sont poussées avec les transferts de compétences et des ressources.
Voilà. Monsieur Alkadi Mamoutouré de l'URD, qu'est-ce que vous en pensez?
Merci beaucoup. Moi, je crois que j'ai des questionnements. Pendant que nous sommes en train de négocier, le MNLA est en train de préparer, on est en train de préparer un séminaire pour l'autodétermination. Et il a adhéré, il est le 13e membre. Je veux poser la question à ceux qui sont là, qui peuvent parler au nom du MNLA. Moi, je ne parle d'aucun statut. On est dans notre pays. Tout ce qui est bon pour tout le pays, qu'on l'applique à tout le pays.
Faut-il aller à la régionalisation?
La régionalisation, c'est déjà prévu. S'il y a eu des lois, la loi est déjà devant l'Assemblée nationale, on est en train de le faire adopter, donc là, il n'y a pas de problème. Ça, c'est l'État qui a décidé qu'il y a régionalisation, ça ne pose aucun problème. Mais moi, je ne suis pas pour un statut particulier, je suis pour un texte qui s'applique à toute la nation et que ce ne soit pas par des considérations quelconques. Parce que ce que les gens, les rebelles veulent, tout le monde le sait, ils veulent qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent à Kidal. C'est tout. Que personne ne vienne leur demander des comptes. Mais on ne peut pas être dans un État et qu'on ne vous demande pas de comptes. Ceux qui demandent, ils demandent de faire adhérer 3 000 dans l'armée des généraux. Et après, ils demandent que ces militaires ne quittent même pas le Nord. Depuis quand est-ce qu'un militaire peut ne pas dépendre d'un état-major central? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, moi, je ne comprends pas ce que c'est. Non, réellement, moi, je suis débat là.
D'accord,
je ne comprends absolument rien là-dedans.
Oui,
et je veux vraiment m'aventurer parce que nous entendions que
Excellence, on va avancer. Comment vous voyez aujourd'hui concrètement la sécurité au Nord? Comment la rétablir?
Mais on ne va pas rétablir la sécurité tant qu'il n'y a pas la bonne foi de ceux qui sèment la terreur. Tant qu'il n'y a pas cette bonne foi. Et pour moi, il n'y a pas de bonne foi. Pendant qu'on est en train de négocier, on est en train d'attaquer des camps de l'aménagement, des gens qui sont venus nous aider. On est tant qu'il n'y a pas cette bonne foi-là.
Mais les attaques des camps de l'aménagement, vous les mettez au compte des djihadistes ou au compte du MNLA ou au compte des groupes armés?
Qui est djihadiste, qui n'est pas djihadiste au Nord? Dites-le-moi si vous connaissez. Moi, je ne connais pas.
Monsieur Diabaté, la sécurité au Nord, comment vous voyez?
Bon, en fait, le forum a réfléchi sur la sécurité au Nord et qui a fait des propositions dans un document peut-être qu'il va vous remettre après. Et sur cette question de sécurité dans les régions du Nord, nous avons quand même demandé de cantonner, de désarmer tous les combattants. Ça, c'est une première étape. Il faut également que l'État s'engage dans un processus d'intégration et de réinsertion, mais au cas par cas. Au cas par cas, parce que nous avons vu, il y avait eu des anciens combattants, des anciens rebelles qui étaient dans l'armée, qui étaient dans la douane, qui étaient... et dans d'autres fonctions civiles, mais qui ont déserté. Donc c'est pourquoi on dit de faire par cas, et tous ceux qui sont considérés comme déserteurs, qu'ils soient militaires, fonctionnaires, civils, que ces gens ne soient pas intégrés. C'est pourquoi on dit de faire une intégration au cas par cas. Mais aussi c'est de construire une armée républicaine dotée pratiquement de toutes les forces nécessaires afin qu'elle remplisse sa mission régalienne. Parce qu'aujourd'hui, tous les problèmes que nous avons, l'armée est mal formée, l'armée elle est mal équipée, ce qui fait que l'armée n'a pas le moyen de sa politique et de sa défense. Il faut également organiser les états généraux. Les états généraux de l'armée, il faut multiplier les portes de sécurité à travers le pays, notamment les zones à risque, et prévoir une politique d'incitation, n'est-ce pas, à servir dans ces zones. Mais il faut également moraliser le recrutement. Parce que quand on regarde aujourd'hui, si moi j'ai un enfant chez moi, je ne sais pas que faire de lui, je fais en sorte qu'il soit recruté au niveau de l'armée. Donc il faut moraliser le recrutement au niveau, mais également la gestion des carrières dans le corps des forces armées et des défenses de sécurité. Moi je pense que c'est l'une des préalables, l'un des préalables qu'il faut peut-être mettre en place pour que la sécurité puisse revenir dans les régions du Nord. Et au temps de le régime défunt, pratiquement, l'armée n'existait pas à Kidal. Ils ont fermé pratiquement tous les camps.
Ok, M. Mohamed Ould Sidi, oui, du RPM. Au niveau du RPM, certainement, on pense aujourd'hui comment rétablir la sécurité.
Nous pensons qu'il y a une loi de programmation militaire qui doit venir très bientôt à l'Assemblée nationale et qui va tenir compte de tous les contours de la sécurité à travers le Mali et à travers particulièrement les régions du Nord. La loi est beaucoup avancée, elle n'est pas encore à l'Assemblée nationale, mais je sais que il y a eu beaucoup de groupes thématiques qui sont en train de réfléchir là-dessus. Donc cette programmation, elle prévoit un peu de tout. Le chef d'état-major a fait une intervention avant-hier que j'ai écoutée à RFI. Il a été très clair pour dire qu'il pense qu'il va... Une fois qu'il y a la paix en général, si la paix est signée, c'est sûr que les groupes armés vont respecter la sécurité au Nord. Sinon, au Nord, aujourd'hui, comme l'honorable Touré dit, en dehors de Kidal, il y a quand même l'armée malienne à Tombouctou, il y a l'armée malienne à Gao. Moi, je suis de Goundam, moi j'ai un camp militaire chez moi là-bas, j'ai la gendarmerie qui travaille. Bon, peut-être que dans les confins de la brousse, on ne perçoit pas les services de sécurité parce que c'est quand même des zones dangereuses, mais quand même les principales agglomérations des régions de Gao et de Tombouctou, celles-ci quand même, il y a là, on sent un peu la présence de l'armée là, et des forces de sécurité.
Monsieur l'élu de Kidal, et des armées cantonnées, vous pensez que ça peut contribuer à amener la sécurité? Est-ce que peut-on rétablir la sécurité aujourd'hui au nord du Mali sans le Moujao, sans en sardine, Yada Gale, je veux dire.
Bon, moi, je crois qu'aujourd'hui, ça, c'est des groupes différents, totalement différents. Ce qu'il y a aujourd'hui, obligatoirement, il faut cantonner, et cantonner normalement, et il faut désarmer. Immédiatement aussi, après la signature d'un accord, il faut tout immédiatement cantonner et désarmer. Cela laisse une chance à pouvoir connaître maintenant les autres. Parce que, en tout cas, jusqu'ici, on n'a pas entendu parler de négociations ni du Moujao, ni des djihadistes. Avec les djihadistes, ni les Moujao. Enfin, les djihadistes sont tous les mêmes. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a deux problèmes. Il faut cantonner, il faut s'entendre avec le mouvement qui se réclame de l'État malien, qui veulent. Qu'il y ait une paix et un développement qui ne sont pas dans la ligne rouge, parce que les autres mouvements dont vous avez parlé, ils sont de l'autre côté de la ligne rouge. Maintenant, ceci, je ne peux rien dire d'eux. Sauf que je sais qu'ils ne vont jamais laisser dormir. Maintenant, il faut qu'on ait une armée capable de gérer cette situation. Il y aura toujours des problèmes d'insécurité, même après les cantonnements et les accords. Et il faut que l'État les prévoie. Et maintenant, nous avons besoin d'une armée aujourd'hui réformée, réellement réformée. Et une armée avec des moyens que nous n'avons pas actuellement. Il faut que les Maliens mettent les moyens, certains moyens indispensables à la disposition de l'armée. Et il faut réformer l'armée malienne.
Donc nous allons observer une minute de pause, nous revenons.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Je rappelle aux auditeurs que nous sommes aujourd'hui avec les élus du Nord, Mohamed Oud Sidi Mohamed du RPM, Elia Gundam, Al-Kadi Mamoudou Touré de l'URD, député de Diré, Mamoutou Diabaté du Forum des organisations de la société civile et le député Ak Inas, élu Akidal. Alors, la question à laquelle on va tenter de répondre, la justice et la réconciliation. Comment vous voyez aujourd'hui la justice et la réconciliation au Nord? Monsieur Al-Kadi Mamoudou Touré de l'URD.
Merci beaucoup. Donc, la justice et la réconciliation, c'est-à-dire on avait une première commission qui ne prenait pas le concept de justice. Aujourd'hui, on a créé une commission vérité, justice et réconciliation. Vérité par rapport à tout ce qui s'est passé dans le Nord. Justice pour réparer tout ce qui a été fait et réconciliation après que justice soit rendue. Moi, je ne suis pas pour les gens qui veulent qu'on continue dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'une erreur ne peut pas corriger une autre erreur. Il faudrait absolument que la justice s'applique. Ça n'a rien à voir. On peut même appliquer des peines symboliques, mais il faudrait quand même que ces personnes-là acceptent qu'elles ont commis des forfaits et qu'elles-mêmes, elles demandent pardon. Mais le problème est que chaque fois, on nous dit nous nous réconcilions. Personne ne vient nous demander qu'il a fauté. On se réconcilie avec qui? Quelqu'un qui ne reconnaît pas avoir fauté, on se réconcilie avec lui comment? Moi, si quelqu'un, quel que soit, même si c'est ma maman que la personne a tué, elle vient, elle me dit, j'ai commis une erreur, j'ai commis une erreur abominable, j'ai tué votre maman de sang-froid, mais je vous demande à cause de pardonnez-moi. Mais moi, pourquoi je ne vais pas lui pardonner?
Donc, votre sanction symbolique, ça n'exclut pas le pardon?
Ça n'exclut pas le pardon. Il faudra absolument que justice soit quand même rendue. À ce moment, on peut parler de tout. Et il faudrait que la vérité soit établie, parce que c'est important. Parce que tant que les faits ne sont pas rétablis dans leur réalité, il n'y a pas de réconciliation. Parce qu'on va toujours à côté. Mais quand je sais la réalité de ce qui s'est passé, je suis satisfait. En ce moment, la justice passe et enfin, on se réconcilie.
Monsieur Mamoudou Diabaté, du Forum de la société civile, la réparation symbolique, pensez que ça peut suffire pour aboutir au pardon?
Bon, en fait, moi, je voudrais quand même dire d'abord, pour que cette réconciliation puisse réussir, il faut arrêter avec des mesures d'apaisement impopulaire que nous voyons aujourd'hui avec le gouvernement. La libération des bandits, la libération des criminels, la libération des narcotrafiquants, pour nous, relève du devoir, n'est-ce pas, de l'autorité judiciaire. Ça, c'est des mesures impopulaires. Donc, quelqu'un qui avait...
Mais vous n'avez aucune preuve que ce sont des narcotrafiquants.
Oui, mais voilà. J'ai dit, il appartient maintenant à la justice de dire qu'ils ne sont pas coupables. Et là, on peut les libérer. Oui. Mais jusque-là, le soupçon est là. Ils ont été arrêtés parce que le soupçon était là. Voilà, maintenant, pour établir la vérité, il fallait faire des enquêtes. Lui, il a parlé de la commission justice, la commission vérité, justice et réconciliation. Mais cette commission, la mise en place de cette commission répond au souci, n'est-ce pas, de faire des enquêtes, de déterminer les coupables et que ceux qui sont coupables puissent venir devant la population, la communauté, pour s'excuser. Et le Mali, c'est un pays de pardon. Quelqu'un peut commettre des délits, mais quand il vient voir la victime en présentant les excuses, il peut accepter, il peut te pardonner. Mais tant que ça, ce n'est pas fait, ça veut dire que la réconciliation restera, n'est-ce pas, un mot, un langage mort, parce que ça ne sera pas un fait réel. Donc, il faut mettre en place cette commission vérité, justice et réconciliation, que cette commission fasse son travail, que cette commission puisse établir les faits, que cette commission puisse également dire, voilà, X a commis telle erreur, et que les gens puissent reconnaître, et devant, n'est-ce pas, les victimes qui puissent faire le pardon. Maintenant, ce qui nécessite, n'est-ce pas, d'être traduit devant les tribunaux et ils viendront répondre de leurs faits. Mais tant que la justice n'est pas là, la réconciliation ne sera pas effective.
L'élu de Kidal, vous voyez les choses comme ça?
Bon, moi je sais que vraiment c'est le problème de justice, c'est un problème réel au Mali. Et il n'est pas d'aujourd'hui. Il y a tellement d'injustices dans ce pays qu'il faut quand même aujourd'hui donner à la justice malienne un autre habillement pour aujourd'hui faire la justice dans ces pays. Donc cela ne nous permet pas de laisser tout le monde. Il y a la commission justice, vérité et réconciliation, il y a la justice de l'État malien. Maintenant, il y a des cas qui ne peuvent être traités par la justice de l'État malien. Mais il y a des cas qui peuvent être traités par la Commission Justice, Vérité et Réconciliation. Et je pense qu'ensemble, avec les notabilités, parce que vous avez parlé de la sécurité, vous avez parlé de la justice, c'est des choses qui sont presque liées. Cette paix-là, ce n'est pas seulement les forces de sécurité et l'armée qui vont la faire.
Donc vous n'êtes pas...
Cette sécurité-là, il faut l'implication des communautés, des responsables, de tout le monde pour
donc
cette paix.
Vous n'excluez pas
et
aussi
même la justice,
justice
même cette justice-là, pour une réconciliation. Bon, j'ai un peu l'habitude parce que je gère une communauté. Donc on est toujours obligé d'amener ça. On a toujours travaillé même avec les juges pour essayer de réconcilier des communautés. Est-ce que vous voyez? Donc ça serait à peu près la même chose. Mais il y a des cas qui ne peuvent pas ne pas aller directement à la justice.
Monsieur Mohamed Oul Sidi, du RPM, vous voulez réagir?
Bon, moi je voudrais dire que la justice, il faut qu'elle soit faite. Ça, c'est... Mais si ce que les gens n'ont pas compris, si quelque part il y a eu des libérations des gens qu'on a arrêtés, c'est qu'on n'a pas, à ce que je sache, tous ceux qui ont été libérés, c'est après avoir vidé leur dossier auprès du procureur qu'ils ont été libérés. Ensuite, il y a aussi des pesanteurs, c'est que pour des raisons d'État, on peut libérer certaines choses, on peut libérer certaines personnes sur lesquelles on n'a que de la présomption. Parce que la plupart des gens qu'on a arrêtés, la plupart, c'est des gens qui ont été pris dans les patrouilles et qui sont suspects et qu'on a conduits directement ici au camp 1. Donc, je sais que beaucoup ont été écoutés par les services judiciaires et certains, les tribunaux ont souvent dit qu'il y a des non-lieux sur tout ce qui leur a été fait. On les a libérés. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de petits cas qui ont été libérés pour des raisons d'État. Mais moi, je pense que tout ce qui peut ramener la paix, tout ce qui va dans ce sens doit être vraiment compris et souhaité par les Maliens.
Et selon vous, voilà. Est-ce la commission Vérité Justice peut
aider
les Maliens aujourd'hui à retrouver la paix?
Bon, la commission Vérité Justice et Réconciliation, c'est une bonne chose. Elle va parce que son rôle, c'est d'enquêter et d'établir les faits, recevoir les plaintes des gens, enquêter et recevoir les faits. Et maintenant, les transmettre à la justice. Le dernier mot revient à la justice. Elle ne juge pas. C'est seulement une commission d'enquête pour prendre à peu près, ils vont faire l'officier de police judiciaire pour la justice. Mais le dernier mot reviendra toujours à la justice. Et c'est une commission. Moi, j'ai trouvé que, quoi qu'on parle de 3 ans, elle n'a pas encore démarré. Mais moi, je trouve que 3 ans, peut-être, c'est très peu. C'est parce qu'on a élargi son champ d'action quand même. Parce qu'on dit que c'est de 1960 à nos jours. Donc, alors que si on avait circonscrit seulement dans le temps, depuis les dernières... Parce que si on remonte à 1960, il y a les trucs de l'ISRDA, il y a beaucoup de trucs. Donc ça va être très compliqué. Moi, je pense qu'on aurait dû réduire le champ. Bon, elle était au début à 30 personnes. Il paraît qu'elle est revenue à nous. Nous avons voté la loi pour 15 personnes. Et même là, elle n'est pas encore mise en place. Je sais que jusqu'à présent, l'État n'a pas, l'a pas mis en place. Certainement, selon mon entendement, ça sera peut-être après les accords. Parce que même si on l'avait mise en place avant, même elle ne pourra pas travailler comme dans l'insécurité qu'il y a, dans les désordres. C'est quand maintenant tout va se stabiliser, maintenant que les auteurs des fautes vont passer, les plaignants vont vous dire c'est X qui m'a violé, c'est X qui m'a frappé, c'est X, Y qui a coupé ma main. Ils vont le prendre sur procès verbal et maintenant il va répondre. Peut-être que comme les camarades ont dit, si il reconnaît les faits, un bon malien, le bon malien pardonne toujours lorsque vous reconnaissez vos faits et vous savez que c'est un fait de Dieu, vous demandez excuse. Très souvent, on vous excuse en tant que bon malien.
Okay. Al-Khali,
oui. Oui, je voudrais rectifier des choses parce qu'il y a beaucoup, quand ils ont vu la loi sur la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, quand ils voient l'étendue par rapport au conflit, ils croient qu'il s'agit d'aller jusqu'aux indépendances. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des conflits au Nord. C'est précis hein, dans la loi. Il s'agit simplement des conflits au Nord. Mais, c'est-à-dire les gens personnalisent les problèmes. Le problème de lever des mandats, il faut que les gens soient clairs. Si c'est pour l'État, si c'est pour des régions d'État, si c'est pour apaiser, qu'on dise la vérité aux gens. Il y a un flou là-dedans. C'est-à-dire que les gens estiment que parce que vous êtes au pouvoir, vous ne pouvez pas dire la vérité aux gens. Dites-leur, nous sommes tous notre pays. Tout ce qui peut apaiser ce pays-là, nous y abandonnons. Mais je vais simplement préciser que quand on parle de justice, on parle de réconciliation, on parle de tout ce que vous voulez. Mais je vous jure, ce que la mauvaise gouvernance a causé comme dégâts dans ce pays-là, aucune rébellion ne pourra causer ça.
Ok, vous avez lâché le mot. Et concrètement, aujourd'hui, quelle gouvernance économique faut-il pour la région du Nord, Monsieur Al-Khadi Touré de l'URD?
Moi, je veux vous dire une chose. Tant que ceux qui doivent représenter ne représentent pas, tant que ceux qui doivent diriger ne dirigent pas, vous pouvez amener tous les milliards du monde au Nord.
C'est-à-dire ?
Ça veut dire que combien de milliards on a dit qu'on a investi au Nord ? On a donné à qui ? Dites à qui ?
Non, c'est vous. Dites-nous.
Non, non, mais moi je ne le sais pas. Mais ceux qui sont au pouvoir, qui nous disent à qui ils ont donné pour développer où ? On donne à un seul des milliards. Il n'a ni projet, il n'a que les voitures. Il vient ici à Bamako. Personne ne peut aller voir ce qui se passe là-bas. Donc, je vous dis qu'il y a des gens qui sont là, qui disent qu'ils sont représentatifs de certaines zones qui ne le sont pas. Ils ne donnent pas aux véritables bénéficiaires, aux véritables autochtones, à ceux qui méritent, à ceux qui sont sur place. On ne s'en sortira pas, quel que soit l'argent qu'on va amener au Nord.
Monsieur Mamoudou Diabaté, du Forum de la Société Civile, la gouvernance économique, qu'est-ce qu'il faut pour Kidal, pour la région du Nord?
Bon, gouvernance économique, moi je voulais quand même dire que c'est dommage qu'il revienne, je revienne là-dessus. Mais la libération des tortionnaires, le monsieur de Tombouctou.
Non, on est à la gouvernance économique.
Oui, mais il faut qu'on le dise parce qu'il a dit, non, il a dit que la justice a fait son travail. Un travail n'a pas été fait.
Non, maintenant
pour la gouvernance économique, pour moi d'abord, il faut même faire l'audit de tous les projets qui ont été exécutés au Nord. Il y a tellement d'argent qui ont été investis au Nord, mais à l'évaluation, il n'y a rien, il n'y a aucune réalisation. Il faut faire l'audit des projets religieux dans les régions du Nord. Mais aussi, il faut moraliser le recrutement des responsables des projets. Qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, s'il y a un projet qui est exécuté à Kidal, vous pensez qu'un Doumbia ou un Sissoko peut aller diriger ce projet à Kidal? Non. C'est généralement parce que tout est fait sur mesure. On dit qu'il faut parler la langue du milieu. Le responsable du projet n'est pas forcément obligé de parler tamashek, mais ces projets sont exécutés par les tamashek et les fonds sont détournés par les tamashek. Et ces véhicules sont détournés par les tamashek.
C'est vous qui le dites. Hein?
Non, c'est pas moi qui le dis, mais c'est un constat.
La communication.
Il faut renforcer la communication.
D'accord.
Tant au niveau terrain, mais aussi au niveau gouvernemental.
Ok. Et qu'est-ce que vous en pensez, l'élu de Kidal, l'honorable élu de Kidal?
Moi, je crois que la gouvernance...
économique à qui dans les régions du Nord?
La gouvernance, elle est nationale. Son règlement ne peut être que national. Tout pourri par la tête. Et le développement au Mali, pourri à partir de Bamako, ici. Tout est centralisé ici, tout est entre les différents ministères. Je l'ai dit ce matin. Je l'ai dit ce matin au ministère des Finances. Et les ministres même les reconnaissent. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est venu aujourd'hui ou bien avec ce gouvernement. C'est depuis des années, ça s'entasse. Et maintenant, les gens sont en train de se préparer à s'exploser. Je suis un agent de l'administration. J'ai été élu. Je suis politicien.
Okay.
Donc, je connais ces problèmes-là. Tout est centralisé ici. Même ce matin... Des députés ont démontré devant le ministre des Finances que des projets de centaines de millions à Sikasso ici.
D'accord,
n'ont même pas été exécutés. Il n'y a même pas un début d'exécution sur financier.
Pour lucider, hein? 30 secondes pour boucler. Oui.
Moi, je pense que on ne peut pas accuser le régime actuel qui n'a qu'un an.
Oui, il a dit.
Et nous sommes à tout ce qui s'est passé. Nous, on n'est pas comptable de ça. Le RPM et le régime du Ibeka, on est comptable seulement du 4 septembre 2013 à nos jours. Et tout le monde sent le changement qui est en train d'être amorcé.
Okay.
Je vous remercie.
Merci beaucoup. Le changement est en train d'être amorcé. Le débat de ce soir a pris fin. Nous étions avec les élus du Nord, Mohamed Oud Sidi, Mohamed du RPM, Elu Agunam, Al-Khadi Mamoudou Touré de l'URD, député de Diré, Mamoudou Diabaté du Forum des organisations de la société civile, M. Ag Inas, député élu à Kidal. Au microphone, il y avait moi-même, Souleymane Kenza Sidibé. Et cette émission a été rendue possible par le soutien du peuple américain à travers l'Agence américaine pour le développement international. Le contenu de l'émission est de la seule responsabilité du studio Tamani et ne reflète pas nécessairement les points de vue de l'USAID ou du gouvernement des États-Unis. Merci à vous, à bientôt.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani wa Makaran.
Le grand dialogue du Parlement avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et l'appui financier de l'USAID.
Chen Nibiru.
Halud Mauni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.